Merci d'Idrissa Sédoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Bonjour, au micro Idrissa Sédoudia. Au Mali, les camps des forces étrangères et maliennes ont été visés simultanément lundi à Menaka, Gao et Kidal dans le nord par des tirs d'obus et de roquettes. Aucune victime n'a été signalée après ce qui semble être une rare opération coordonnée contre plusieurs positions des forces étrangères, par ailleurs régulièrement prises pour cible séparément par les djihadistes. Tabat, une organisation de propagande proche du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, a attribué à ce même groupe ses attaques dirigées selon lui contre les militaires français. La situation est sous contrôle dans les trois localités, a dit un responsable militaire étranger. Au Burkina Faso, le CDP, parti de l'ex-président Blaise Compaoré, devenu la principale force d'opposition du pays, a indiqué lundi renoncer à un recours contre la réélection du président Roch Kabore au premier tour de la présidentielle le 22 novembre. Il avisera après la proclamation définitive du résultat par le Conseil constitutionnel, selon un communiqué du parti. Le candidat du CDP, Eddy Komboigo, est arrivé deuxième à la présidentielle avec 15,4% des voix, tout comme le parti lui-même aux législatives avec 20 sièges à l'Assemblée nationale. L'actrice politique en République démocratique du Congo, des députés pro-Kabila, dénoncent des tentatives de corruption. Abdulrahman Dia nous en parlera. En Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed a prévenu lundi les dirigeants de la région dissidente du Tigré en fuite après la prise de leur capitale Mekele qu'ils étaient dans la ligne de mire de l'armée, mais leur chef a assuré que le combat se poursuivait deux jours après la victoire militaire proclamée par M. Abiy sur les forces du TPLF qui dirigeait cette région. Appel du secrétaire d'État américain Mike Pompeo à M. Abiy pour une cessation totale des combats. Nous y reviendrons avec Michel Joseph. Coronavirus, le laboratoire américain Moderna a déposé lundi une demande d'autorisation de son vaccin contre le COVID-19 aux États-Unis, faisant espérer de premières vaccinations possibles dès le mois de décembre face à une pandémie toujours en pleine expansion. L'ONU a lancé ce mardi un appel humanitaire record de 35 milliards de dollars pour 2021. La pandémie ayant plongé des centaines de millions de personnes dans la pauvreté et des famines se profilant. Avec le choc de la pandémie de COVID-19, le nombre des personnes ayant besoin d'aide humanitaire dans le monde va atteindre un nouveau record, 235 millions, une augmentation de 40% en un an, selon les plans de réponse humanitaire coordonnés par l'ONU. Les États-Unis s'acheminent vers des mois difficiles sur le plan économique en raison de la résurgence de la pandémie ici et à l'étranger, selon le président de la Banque centrale américaine. Les nouvelles récentes sur le front des vaccins sont très positives à moyen terme, a dit Jerome Powell, pour relever ensuite que, pour l'instant, d'importants défis et incertitudes demeurent, y compris le calendrier, la production et la distribution d'un ou de plusieurs éventuels vaccins. Celle qui a précédé Jerome Powell à la Banque centrale, Janet Yellen, a été choisie par le président élu Joe Biden pour le poste de secrétaire au Trésor. Elle va devenir ainsi la première femme à diriger le ministère américain des Finances. M. Biden a également dévoilé quelques membres clés de son équipe économique composée de minorités et de femmes, dont la priorité sera d'apporter, a-t-il dit, un soutien immédiat aux pays affectés par la pandémie. Autre première prévue au Trésor, un Africain-Américain, Wally Adeyemo, dont la nomination au poste de secrétaire adjoint au Trésor a été annoncée par M. Biden. Cet expert en politique macroéconomique est d'origine nigériane. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. La suite de nos informations, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a appelé lundi le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à une cessation totale des combats et à permettre un accès humanitaire sans entrave dans la région du Tigré. Le point avec Michel Joseph.
Il est essentiel de résoudre le conflit en cours et de maintenir l'Éthiopie sur le chemin de la démocratie, a déclaré Mike Pompeo sur Twitter après s'être entretenu au téléphone avec le premier ministre éthiopien. Monsieur Pompeo a réitéré la grave préoccupation des États-Unis au sujet des hostilités et des risques que pose ce conflit. Il a appelé à une cessation totale des combats, à un dialogue constructif pour résoudre la crise et à protéger les civils, notamment les réfugiés. Abiy Ahmed a assuré hier aux députés éthiopiens que les dirigeants dissidents du Tigré sont en fuite et qu'ils sont suivis à la trace par l'armée éthiopienne. Il avait envoyé le 4 novembre l'armée au Tigré afin de chasser les autorités régionales qui défiaient le gouvernement central.
En République démocratique du Congo, des députés fidèles à l'ancien président Joseph Kabila ont dénoncé lundi des tentatives de corruption pour, selon eux, changer leur majorité au Parlement. Des accusations lancées en pleine crise politique avec l'actuel président Félix Tshisekedi au sein de la coalition au pouvoir. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les députés du Front commun pour le Congo ont condamné ce qu'ils appellent des manœuvres de bas étage vouées à l'échec. Avec toutes les preuves de corruption qu'il détient, le FCC se réserve le droit d'ester en justice contre le corrupteur et le corrompu, a ajouté dans un communiqué le regroupement des forces politiques derrière l'ex-président Kabila. Le FCC revendique plus de 300 députés sur 500 à l'Assemblée nationale et la quasi-totalité des 109 sièges au Sénat. Didi Manara, un député du FCC, a déclaré à plusieurs reprises que certains de ses collègues se sont vus proposer 7 000 $ pour changer de camp et faire basculer la majorité. Le FCC et la coalition CAP pour le changement cash du président Tshisekedi ont signé un accord qui a permis en janvier 2019 la première transition pacifique du pouvoir dans l'histoire de la RDC entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur des élections du 30 décembre 2018. Le président Tshisekedi a lancé le 2 novembre des consultations politiques en parlant d'union sacrée. Les consultations ont pris fin mercredi dernier.
Les services de sécurité tanzaniens ont arrêté arbitrairement, torturé ou fait disparaître de force depuis un an une vingtaine de réfugiés burundais des camps de Tanzanie. Selon Human Rights Watch, Nathalie Barge.
La police tanzanienne a arrêté et fait disparaître de force 7 réfugiés burundais et demandeurs d'asile depuis janvier 2020, dont le sort est toujours inconnu, affirme l'organisation dans un rapport publié lundi. En outre, entre octobre 2019 et août 2020, la police et les services de renseignement ont torturé et détenu arbitrairement au moins 11 Burundais pendant plusieurs semaines dans un poste de police à Kibondo, dans la région de Kigoma, affirme Human Rights Watch. 3 d'entre eux ont été libérés et les autorités tanzaniennes ont reconduit de force les 8 autres au Burundi en août, où ils sont détenus sans chef d'inculpation, poursuit l'organisation qui évoque une possible collusion entre les agents des deux pays. Selon Human Rights Watch, ces arrestations ont eu lieu dans les camps de réfugiés de Mtendeli et Nduta dans la région de Kigoma. Plus de 150 000 réfugiés burundais sont encore dans 3 camps en Tanzanie.
Minute Echo, John Lyndon.
En RDC, l'adjudication des bons du Trésor programmée pour mardi 1er décembre 2020 est d'une valeur de 15 milliards de francs congolais, soit environ 7,5 millions de dollars. Selon le ministère des Finances, ces titres financiers d'une échéance de 3 mois sont à souscrire avant 11 heures auprès de la Banque centrale du Congo. Le gouvernement rappelle que les souscriptions aux bons du Trésor sont ouvertes à toute personne intéressée et non plus seulement aux seules banques commerciales. Nokia a été sélectionné par l'opérateur mobile Togocom dans le cadre d'un accord de 3 ans pour déployer la 5G à travers le Togo. À Lomé, la capitale, le réseau 5G vient d'ailleurs d'être installé, une première en Afrique de l'Ouest. Selon Financial Afrique, l'accord prévoit aussi l'amélioration des réseaux 2G, 3G et 4G existants, ce qui assurera à Togocom la pérennité de son infrastructure pour la prochaine génération de services numériques à destination des citoyens togolais. L'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés se réunissent pour tenter de redonner un peu de vigueur à un marché du brut toujours déprimé. Les membres du cartel pourraient décider de prolonger la réduction de leur production actuelle au-delà du 1er janvier. L'OPEP et d'autres grands producteurs comme la Russie ont convenu cette année à des coupes drastiques dans leur production d'or noir pour tenter de l'adapter à une demande réduite suite à la pandémie de COVID-19.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. La Française Stéphanie Frappard a été désignée par l'UEFA pour arbitrer la rencontre Juventus-Turin-Dynamo Kiev mercredi en Ligue des Champions, devenant ainsi la première femme à assumer cette responsabilité dans la prestigieuse compétition continentale. Stéphanie Frappard, 36 ans, s'était déjà vu confier la Supercoupe d'Europe d'août 2019, opposant Liverpool à Chelsea après avoir été la première femme à arbitrer en deuxième division française en 2014, puis dans l'élite masculine française en 2019, où elle a arbitré début octobre son premier choc Lyon-Marseille. En attendant, à suivre ce soir, toujours en Ligue des Champions, Shakhtar Donetsk-Real Madrid, Atlético Madrid-Bayern Munich, le Borussia Mönchengladbach reçoit l'Inter Milan, Manchester City se déplace au Portugal pour y affronter le FC Porto. Liverpool accueille l'Ajax Amsterdam. Marseille reçoit l'Olympiakos. Toujours en Europe, les élections pour la présidence du FC Barcelone auront lieu le 24 janvier 2021, a annoncé dans un communiqué la commission de gestion transitoire chargée de gérer les affaires courantes du Barça depuis la démission de l'ex-président Josep Maria Bartomeu en août. Les candidats pourront rassembler les 2257 signatures de soutien nécessaires pour valider leur candidature entre le 23 décembre et le 11 janvier. Et la campagne électorale s'étendra ensuite du 15 au 22 janvier. Les socios, entendez supporters actionnaires du club, pourront voter pour la première fois dans 10 bureaux de vote. Par ailleurs, le Barça a précisé qu'après avoir trouvé un accord de principe avec les représentants des joueurs et les membres de l'encadrement de l'équipe première pour une baisse salariale de 122 millions d'euros, le club est parvenu à un accord avec les représentants des autres employés du club. Ici, aux États-Unis, nous parlons de la MLS. Dans la conférence Ouest, le champion sortant Seattle accueille Dallas ce soir en demi-finale de conférence. Kansas City recevra les Minnesota Timberwolves demain mercredi avant une finale de conférence prévue le 7 décembre. Dimanche, New England Revolution et Columbus Crew se sont qualifiés pour la finale de la conférence Est. New England Revolution a été la première à décrocher son billet face à Orlando City, battu 3-1. De son côté, Columbus a mis fin à la belle aventure de Nashville, dont c'est la toute première saison en MLS et qui s'est inclinée 2-0. Columbus et New England se retrouveront le 6 décembre pour la finale de la conférence Est.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, une quarantaine de radios privées observent une journée sans radio ce mardi 1er décembre, journée qui marque la date anniversaire de la prise du pouvoir par le régime actuel. Une décision pour protester contre les agissements des éléments de la police nationale vendredi dernier contre des journalistes et des médias privés suite à l'annonce d'un forum citoyen des forces vives composé de mouvements syndicaux et citoyens, d'artistes engagés, de défenseurs des droits humains et de partis politiques de l'opposition. Notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar, fait le point.
Une journée sans radio pour protester contre la violation des locaux des trois radios privées à N'Djamena et l'interdiction d'accès à la maison des médias du Tchad, une structure mise en place par les organisations professionnelles des médias. Les journalistes de ces médias ont été brutalisés dans leur lieu de travail, séquestrés et arrêtés avant d'être libérés. Selon les responsables du service de sécurité, c'est une confusion de la part des éléments de la police qui cherchaient les organisateurs du forum citoyen interdit par le gouvernement. L'Obnoudita Nathan dirige un réseau de journalistes tchadien.
C'est un acte barbare qui ne se justifie nullement, même dans une dictature. Parce que nous ne pouvons comprendre que dans ce pays où les agents de renseignement fouillent même jusqu'au fond des marmites, ils ne peuvent pas envisager de venir investir un organe de presse dans l'espoir de trouver les organisateurs d'un forum qui est interdit. C'est une tentative même de musellement de la presse.
Cependant, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel qualifie la décision de la journée sans radio ce 1er décembre d'extrémiste et invite les radios privées à vaquer à leurs activités. Une quarantaine de radios privées sur l'ensemble du pays vont observer ce mot d'ordre du bureau exécutif de leur organisation, affirme à VOA Afrique Valérie Diokmbaye, directeur par intérim de la radio Nada Plus, située à Moundou, capitale économique du Tchad.
Moi, j'aurais voulu même faire une faction cela pour une semaine même. Une journée, ça ne veut rien dire aussi. Hein. L'État a garanti déjà la liberté. Il nous a dit qu'il ne nous apportait ni or, ni argent, mais la liberté. Et il faudrait que ça soit traduit dans les faits. Et à la veille de la fête de la démocratie, on nous bombarde avec des grenades lacrymogènes et impensables. Nous sommes quand même un quatrième pouvoir et on doit se faire respecter.
Le président de l'Union des journalistes tchadiens, Abbas Mahmoud Tahir, soutient la journée sans radio et appelle tous les journalistes à être solidaires dans leur lutte.
L'UJT est solidaire avec les radios privées dans sa journée sans radio pour dénoncer la violation du siège de quelques radios de N'Djamena par la police nationale. J'ai eu une rencontre avec le DGA de la police nationale. Nous avons parlé de cet incident. Il a exprimé sa désolation. C'est déjà arrivé. Nous n'acceptons pas qu'on viole le lieu de travail des journalistes de cette manière. Nous allons continuer toujours à demander plus de respect, plus de protection et de sécurité. Donc, il faut qu'on soit solidaire pour défendre notre métier.
Sosten Bernoudi, coordonnateur du mouvement citoyen pour la préservation des libertés, soutient aussi cette action.
Le peuple tchadien a été témoin le vendredi 27 novembre 2020 de graves violations des droits de l'homme au sein de la radio des droits de l'homme FM Liberté. Cette station qui fait la promotion de la fameuse démocratie dont le régime se targue d'être pionnier. Le bureau exécutif du mouvement citoyen pour la préservation des libertés condamne l'acte posé par les éléments de la police anti-émette Gémib et soutient l'URPT dans son action non violente de journée sans radio pour ce mardi 1er décembre 2020, la fameuse journée de la liberté et de la démocratie.
La direction générale de la police nationale refuse tout commentaire pour le moment.
André Kodumadjingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En République centrafricaine, à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, le discours politique change de ton. L'opposition et le pouvoir s'accusent mutuellement de multiplier les messages de haine, tandis que les leaders religieux, dont, avant son décès samedi, l'imam Oumar Koubine Layama, président du Conseil supérieur islamique de Centrafrique, ont eux appelé à l'apaisement. De Bangui, Freeman Sipila.
La tension bien visible entre les leaders de l'opposition et le pouvoir présage le climat politique pendant la campagne électorale. Lors d'un meeting interdit puis autorisé quelques heures plus tard, l'opposition a éclaboussé le président Ouattara, candidat à sa propre succession. Nicolas Tsangaï, porte-parole de la coalition de l'opposition.
Le président Ouattara n'a rien fait en termes de gouvernance, en termes de sécurisation du pays parce que quand il avait pris le pouvoir, le pays était occupé à 50% par les groupes armés. Aujourd'hui, c'est 85% du territoire qui sont occupés par les groupes armés. Ensuite, il y a un problème de sécurisation du processus électoral parce que nous ne pouvons pas aller faire les élections dans des conditions apaisées, étant donné que ce sont les groupes armés qui sont des alliés de Touadéra qui empêchent les opposants de circuler librement dans le pays.
La réplique a été automatique. Les partisans du pouvoir multiplient les attaques contre l'opposition dans certains médias et réseaux sociaux. L'ancien président François Bozizé, candidat déclaré à la présidentielle du 27 décembre, se dit plusieurs fois victime des provocations du pouvoir.
Cette manière de faire risquerait de compromettre le bon déroulement des élections. Il y a une semaine, certains officiers généraux bien placés ont fait des déclarations, je crois bien c'est au camp Kassai, parlant de ma personne, je ne sais pourquoi, mais c'est ce qui m'a été rapporté. Et cette communication a été connue de tout le monde. Cela aboutira à quoi? Mais toujours est-il que les ordres qui leur auraient été donnés, c'est d'abattre Bozizé avant les élections.
Accusations, injures et provocations, tout concourt à nourrir la haine et la division. L'imam Koubine Layama, président du Conseil supérieur islamique de Centrafrique.
Le processus électoral en cours, il y a une vive des inquiétudes à cause de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, vraiment ça m'écœure. Je ne pense pas que c'est de cette manière que nous, Centrafricains, nous devons nous parler.
Le peuple centrafricain a tant souffert, il est temps de tourner la page, déclare l'archevêque de Bangui, cardinal Dieudonné Zapalainga.
C'est pas la guerre des personnes, la guerre des communautés, la guerre des groupes. Parfois, nous sommes désolés de voir que ces messages de haine ou de vengeance que nous entendons de part et d'autre de jusqu'au boutiste, ça ne nous réjouit pas. Moi, en tant que leader religieux, j'en appelle à un sursaut patriotique, à une prise de conscience pour pouvoir arrêter ces messages de haine, de plutôt regarder ce pays qui a beaucoup souffert et qui souffre. Et nous avons besoin d'un relèvement.
Ces messages de haine venant des hommes politiques inquiètent les centrafricains qui imaginent déjà l'ambiance de la campagne électorale qui souffre. Ouvre le 12 décembre. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement veut introduire un système électronique pour la perception des impôts et taxes dans le Nord Kivu, mais la société civile veut aller plus loin dans la sensibilisation sur le terrain et accentuer la pression pour plus de contrôle et surtout plus de sanctions contre les corrompus et corrupteurs dans les services étatiques. Reportage à Goma de notre correspondant Charlie Kasereka.
Canaliser et maximiser les recettes et éviter la corruption, c'est l'objectif que se donne le gouvernement provincial du Nord Kivu en utilisant un nouveau système qui sera bientôt mis en disposition des agences de perception des taxes et impôts. Le logiciel SafeCodonat a été créé par l'entrepreneur qui a signé un partenariat avec le gouvernement provincial, Daoudi Faradja.
Et vous allez comprendre que la banque de données, c'est ça le cœur de la gouvernance électronique. Parce que là, maintenant, on aura des données réelles sur lesquelles on peut se baser pour faire une projection budgétaire qui est objective. Les services seront interconnectés et aussi les services d'assiette. Là, nous parlons des divisions. Seront aussi interconnectés avec la DGRNK, qui est les régies. Et maintenant, vous comprenez que les opérations seront automatiques. Tout le monde va travailler comme si on était dans les mêmes bureaux.
Ces logiciels conçus au Nord Kivu, avec comme objectif d'accompagner le gouvernement dans la canalisation des recettes dans les caisses de l'État, les ministres des Finances et Mines de la province se rassurent et promet la maximisation des recettes avec ce nouveau système. Maître David Kamoua, ministre des Mines et Finances au Nord Kivu.
Notre système électronique va nous permettre d'arriver au résultat, c'est-à-dire d'aboutir au moins à plus de 2 millions de dollars le mois. Et c'est le SafeCodonat qui va nous permettre de mobiliser mobiliser les recettes, permettre à ce que la perception ne puisse plus être manuelle. Donc nous allons migrer du système manuel vers le système électronique de perception de nos recettes et nous pensons que c'est une évolution significative.
Pour la société civile, même si c'est un début, une forte sensibilisation est à envisager dans tous les autres services publics, par exemple dans les ports et aéroports de la RDC où la corruption serait pratiquée à ciel ouvert. Serge Sivia, coordonnateur du mouvement Congo Nouveau, structure qui sensibilise aujourd'hui sur la lutte contre la corruption dans les services étatiques.
En fait, ce que nous faisons en tant que Congo Nouveau et en tant que Congo n'est pas avant le consortium, premièrement, de sensibiliser la population, faire en sorte que les actions de corruption puissent être mises en nu. Le grand problème, c'est celui du contrôle. Mais comme les mécanismes de contrôle qui existent dans notre pays ne font pas leur travail, c'est pour cela que dans le cadre de la société civile, on s'est dit que nous devons mener une pression populaire.
Les Nord-Kivu perdent des centaines de milliers de dollars dans les détournements des recettes par des percepteurs véreux. Il n'est pas rare de voir des percepteurs recevoir de l'argent liquide auprès des contribuables. Désormais, le gouvernement provincial veut éradiquer cette pratique et passer à l'électronique d'ici le 15 décembre. Charlie Kasereka, Goma, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Libérer la parole au niveau des femmes est un combat dans lequel s'est engagée la néo-écrivaine Selome Messan. Imposer le silence est une forme de violence faite aux femmes. En prélude à 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'auteur vient de publier son premier ouvrage. Il s'agit de « Paroles aux femmes », un recueil de poèmes de Lomé, notre correspondante Kay Lawson.
L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre la liberté d'expression. Mais dans beaucoup de milieux au Togo, les femmes expriment difficilement ce qu'elles ressentent. Donner l'opportunité aux femmes de parler de leurs ressentis relève donc du tabou. Selome Messan vient casser les codes en publiant une balade poétique titrée « Paroles aux femmes ».
J'ai eu la chance de rencontrer des femmes inspirantes au cœur brisé. Je les incite à s'exprimer parce que tout simplement, quand une femme s'exprime, c'est qu'elle est en meilleure interaction avec la société. Et dans le recueil, je l'ai très bien dit, il y a des femmes qui vivent des choses très douloureuses. Que ce soit les femmes qui sont battues, que ce soit les femmes qui sont dans le processus de la perte d'un enfant. C'est vrai que je ne me sentais pas forcément légitime de sortir ce recueil de poésie, mais j'ai estimé au final que tout un chacun a le droit de s'exprimer et a des choses à dire et mérite d'être entendu tout simplement.
Pour Adeline, cette amoureuse de la littérature, l'œuvre Parole aux femmes est un bel engagement.
C'est extrêmement important pour les femmes de pouvoir s'exprimer librement parce que elles n'ont pas souvent l'occasion d'exprimer leurs ressentis. Et Parole aux femmes, c'est justement l'occasion de pouvoir faire vivre à tout le monde les sentiments que ces femmes ont.
La divorcée assume, rien à foutre. Elle est bien mieux sans un homme. La raillerie, elle passe outre. À présent, la vie, elle la croque comme une pomme.
L'écrivain Steve Bojona a parcouru les 26 poèmes de ce recueil qui est une compilation de témoignages. Il a été le plus émerveillé par le poème « La divorcée ».
Très souvent, lorsque on a ces femmes qui vivent le divorce, il y a la société qui est toujours derrière pour en quelque sorte la critiquer, sans forcément savoir si elle en est la cause ou si elle est victime, si elle vit en fait un bonheur dans son divorce que le malheur. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment un message assez fort, assez poignant vis-à-vis de ceux-là qui pensent que d'ailleurs des fois, quelles que soient les difficultés, il faut toujours maintenir son couple, alors que parfois on sait que cela pourra d'ailleurs virer au drame.
Le musellement de la femme dans la société est une forme de violence, affirme sans ambiguïté Cheka Malou, président de l'association On est ensemble.
Empêcher les femmes de parler, c'est une forme de violence, clairement. La liberté d'expression, c'est un droit qui est normalement concédé à tous les êtres humains, donc hommes et femmes. Dans nos sociétés africaines et particulièrement dans la société togolaise, nous faisons beaucoup la promotion du silence. Et les femmes encore plus. On est éduqués en se disant qu'on ne doit pas dire tout. Pourtant, je pense que c'est important de pouvoir mettre des mots sur nos mots. Et donc, voilà, les femmes, ce sont des êtres humains, elles ont le droit à la parole.
Pour un dernier vers, une petite recommandation de l'écrivain Steve Bojona.
Là, on dit parole aux femmes, mais c'est un livre également que beaucoup d'hommes devraient lire.
Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez encore